Okay, bonjour à tous, bienvenue donc pour ce deuxième amphi du cours de mécanique des fluides qui sera consacré à l'étude cinématique d'un certain nombre d'outils qui nous permettront de construire des champs de vitesse dans le cas d'écoulement plan pour le fluide parfait. Alors, on s'était quitté la dernière fois sur un cadre général qui comportait deux grands systèmes d'équations qu'on avait appelés les équations de l'air, dans le cas du modèle de fluide parfait, d'une part, et les équations de Navier-Stokes, dans le cas du fluide visqueux newtonien incompressible, d'autre part. Alors la question naturelle est de savoir dans quel cas il faut utiliser un système d'équations plutôt que l'autre. D'une façon générale, le système des équations de Navier-Stokes est plus riche, puisque le modèle physique qui est considéré englobe le cas du fluide parfait, puisqu'à côté du terme de contrainte sphérique, on va avoir un terme de contrainte visqueuse. Okay? Et ce terme de contrainte visqueuse, bien sûr, rend compte d'une physique qui est toujours présente. La question est de savoir dans quel cas cette physique est éventuellement négligeable. D'accord? Donc on se retrouve avec un modèle mathématique plus sophistiqué, un modèle physique plus riche, mais la question est de savoir dans quel cas on peut néanmoins se contenter de l'approximation du fluide parfait et donc du cadre d'équations correspondant, c'est-à-dire le système des équations de l'air. Alors, je vais rappeler la forme générale de l'équation locale de la dynamique. D'accord? Donc, on va avoir notre terme inertiel, c'est-à-dire le produit de la masse volumique par l'accélération, qui n'est autre que la dérivée particulière de la vitesse. Et cette affaire-là va être égale à la divergence du champ de contrainte qui va comporter en toute généralité un terme de pression et un terme visqueux. Et puis bien sûr, s'ajoute à cela éventuellement des forces à distance. Lorsque je supprime le terme visqueux, je retrouve l'équation de la dynamique qui prévaut dans le cas des équations de l'air. Toute la question est donc de savoir si je peux disposer d'un critère simple me permettant de décider dans quel cadre je dois prendre en compte le terme visqueux et dans quel cadre, au contraire, je peux m'en affranchir. Alors pour ce faire, eh bien, évidemment, on néglige jamais un terme dans une équation en disant qu'il est petit. Petit, ça ne veut rien dire. Il est petit par rapport à quelque chose. Il faut donc le confronter à d'autres termes du système d'équations. Et l'expérience montre que la bonne attitude va être de confronter l'ordre de grandeur du terme dit visqueux au terme inertiel. Et c'est ça qui va nous permettre de construire un critère simple basé sur un nombre dans 100 dimensions à partir duquel on décidera si on doit ou non prendre en compte le terme visqueux dans l'équation de la dynamique. Alors, ce nombre sans dimension porte un nom illustre, hein, qui est celui de Osborne-Reynolds, qu'on va introduire dans ce raisonnement. Donc, je reviens sur ce que je viens de dire. Mon propos est de comparer le terme visqueux et le terme inertiel dans les équations de Navier-Stokes, dans le but de savoir dans quel cas ce terme doit être pris en compte ou dans quel cas il peut être négligé. Alors, on constate que, même si ça se voit peut-être pas tout à fait quand on regarde le terme inertiel, que dans les deux cas, ce qu'on va devoir comparer, ce sont des objets qui sont en fait le champ de vitesse auquel on applique des opérateurs différentiels. Alors, il faut revenir un instant sur la dérivée particulière de la vitesse, c'est-à-dire l'accélération. La dérivée particulière de la vitesse, c'est bien sûr la dérivée par rapport au temps de la vitesse, plus le terme de transport, gradient de U, contracté avec U. Alors d'emblée, on va se placer en régime permanent, de sorte qu'en fait, notre dérivée particulière de la vitesse est bien l'application d'un opérateur différentiel au champ de vitesse, c'est-à-dire gradient de U. Donc ce qu'on est amené à faire, en fait, c'est à comparer gradient de U contracté avec U, c'est-à-dire le terme inertiel avec le terme visqueux, qui lui aussi est obtenu en appliquant à la vitesse un opérateur différentiel. Donc on voit bien que la question qui se pose, c'est de savoir, est-ce que je suis capable d'évaluer l'ordre de grandeur d'un objet de la forme suivante? Est-ce que je suis capable d'évaluer une dérivée d'une certaine composante de la vitesse par une certaine composante du vecteur position? Voilà la question qui se pose. Alors, ce qu'on va faire, c'est essayer de systématiser un tout petit peu un raisonnement qu'on appliquera de manière extrêmement fréquente, qui consiste à considérer que l'ordre de grandeur de cette dérivée partielle n'est autre que celui du taux d'accroissement correspondant. Donc, ce qu'on va devoir faire, c'est déterminer l'ordre de grandeur des variations de la composante numéro i de la vitesse et calculer l'ordre de grandeur des variations de la composante j du vecteur position. Il restera à faire le quotient et ça nous donnera l'ordre de grandeur de la dérivée partielle de ui par rapport à xj. Donc pour ça, j'ai besoin d'une jauge pour les variations de la vitesse. J'ai besoin d'une jauge pour savoir quelle est l'amplitude des variations de la vitesse. Et puis, j'ai besoin de connaître également l'amplitude des variations du vecteur position. Alors, on va prendre un exemple qui est en fait un exemple tout à fait fondamental. Si je considère un obstacle, d'accord, un obstacle solide que je vais placer dans un écoulement, mettons que cet écoulement est uniforme à l'infini, mais bien sûr, il est perturbé par l'obstacle, d'accord. Comment est-ce que je vais réagir et comment, dans un cas pareil, je suis en mesure d'évaluer la quantité qui m'intéresse, c'est-à-dire un objet du type d rond UI sur d rond XJ. L'idée, c'est de se dire que je vais considérer une certaine ligne de courant. Alors peut-être que, par exemple, ici, il y a un point d'arrêt, c'est-à-dire un point où la vitesse s'annule, d'accord. Et à ce moment-là, je vois bien que l'ordre de grandeur des variations de la vitesse dans la région perturbée va être contenu dans l'intervalle 0, si c'est un point d'arrêt, U infini. Donc U infini me donne la vitesse donc dans la région non perturbée, me donne une bonne jauge pour l'amplitude des variations de la vitesse dans mon problème. Maintenant, j'ai besoin d'une jauge pour la position. Ce qu'on se dit, c'est que la région que perturbe l'obstacle a une taille caractéristique qui n'est autre que la taille caractéristique de l'obstacle. D'accord ? Donc, à côté de la jauge pour la vitesse, je vais me donner une jauge pour l'ordre de grandeur des variations, l'ordre de grandeur du lieu géométrique sur lequel se produisent les variations. Et cet ordre de grandeur, ça va être la taille caractéristique de l'objet. Alors maintenant, on va systématiser un tout petit peu tout ça. Pour rendre ça propre sur le plan mathématique, on va introduire un vecteur position sans dimension, x' égale x sur l. On va introduire une vitesse vectorielle eulérienne, bien sûr, elle-même sans dimension, en normalisant la vitesse vraie par la vitesse à l'infini. D'accord ? Et on va apprendre à calculer, à appliquer un opérateur différentiel du type des ronds sur des ronds XEI. Évidemment, avec le changement de variable que je viens d'introduire, ce sera 1 sur L, L, la taille caractéristique de mon système, multiplié par la dérivée partielle par rapport à la grandeur sans dimension. Plus généralement, l'opérateur gradient, ce sera 1 sur L fois le gradient opérant par rapport à la variable X'. Et puis le Laplacien, de la même manière, en appliquant deux fois l'opérateur différentiel, un gradient puis une divergence, d'accord, je trouve un Laplacien, je vais évidemment avoir un terme en 1 sur L2 fois un Laplacien sans dimension. Et le propre des opérateurs différentiels sans dimension, c'est qu'ils ne changent pas l'ordre de grandeur du champ auquel on les applique, dans la mesure où au dénominateur, l'amplitude des variations est grand O de 1. On a tout fait pour. D'accord ? Voilà. De sorte que maintenant, je vais pouvoir calculer l'ordre de grandeur du terme inertiel. Je me souviens que mon terme inertiel, c'est ce qu'on a écrit là-bas. Non, je l'ai effacé. C'est gradient de U contracté avec U, simplement, puisque je suis en régime permanent. Et donc, ben, je vais remplacer mon gradient par un gradient sans dimension et mes deux vecteurs vitesse par des vitesses adimensionnées, d'accord ? Ce qui va avoir la vertu de faire apparaître un terme en U infini carré au numérateur, et puis le gradient fait descendre un terme grand L au dénominateur. Donc l'ordre de grandeur du terme inertiel, ben, vous l'avez ici en rouge, c'est rho U infini carré sur grand L. On procède exactement de la même manière pour le terme visqueux, en remplaçant l'opérateur laplacien dimensionné par l'opérateur laplacien prime, ce qui va descendre un terme en 1 sur L2 au dénominateur, et cette fois-ci, toujours en rouge, je vois l'ordre de grandeur de mon terme visqueux. L'idée étant que les termes noirs, ici, ben, ce sont des termes qui sont grand O de 1, puisque j'applique à des objets grand O de 1 des opérateurs différentiels par rapport à la variable d'espace sans dimension, dont on a dit que ces opérateurs ne changent pas l'ordre de grandeur. Donc on reste grand O de 1. D'accord ? Bon, alors, l'objectif qu'on s'était assigné, c'était de comparer l'ordre de grandeur du terme inertiel et du terme visqueux. Ben, on va faire le quotient de leurs ordres de grandeur et on va faire apparaître une quantité qui est évidemment sans dimension et qui porte le nom de nombre de Reynolds. Donc voilà, je suis maintenant à la tête d'un nombre sans dimension qui me permet de comparer les ordres de grandeur respectifs du terme inertiel et du terme visqueux. Alors maintenant, bah, la conclusion est très simple, hein. Premier cas, le Reynolds est très petit. Ah, bah, ça veut dire que c'est le terme visqueux qui l'emporte par rapport au terme inertiel. Alors je vais certainement pas du tout utiliser les équations de l'air dans ce cas-là. Je vais utiliser les équations de Navier-Stokes, mais je vais même pouvoir m'offrir une simplification qui consistera à négliger le terme inertiel dans les équations de Navier-Stokes. Et on trouvera ce qu'on appelle parfois les équations de Stokes, tout simplement. D'accord ? Donc ça, c'est la situation du Reynolds très petit. D'accord ? Lorsque le Reynolds est très petit, eh bien, je garde le terme visqueux dans les équations de Navier-Stokes, mais je m'affranchis du terme inertiel. On verra peut-être à l'occasion des exemples de cette affaire-là en petite classe. La situation qui va beaucoup plus nous occuper dans la suite du cours, c'est la situation où le Reynolds est grand. Alors cette fois-ci, ben, c'est l'inverse, ce sont les effets inertiels qui sont dominants. Et dans ce cas-là, eh bien, on a tout fait pour, hein. On va négliger, on est amené à négliger le terme visqueux dans les équations de Navier-Stokes. Et bien sûr, comme je l'ai annoncé dans mon introduction, on retombe à ce moment-là sur le cadre des équations de l'air. OK. Alors, il faut être extrêmement prudent, c'est une jauge très efficace, très simple, mais attention, elle renvoie à une taille caractéristique, bien sûr, à un fluide qui est caractérisé par sa masse volumique, sa viscosité dynamique, un écoulement, bien sûr, tous ces ingrédients sont présents, mais j'insiste ici sur le fait qu'il incorpore ce critère, donc qui est basé sur le nombre de Reynolds, il incorpore une taille caractéristique. C'est-à-dire que la réponse qu'il donne n'est pertinente qu'à cette taille caractéristique. Okay ? Alors ça veut dire que, en fait, à la taille caractéristique grand L, dans un domaine dont la taille caractéristique est grand L, et si j'examine donc des variations spatiales qui sont jaugées par grand L, d'accord, à cette échelle d'espace, je pourrais, si le Reynolds est grand, négliger les effets visqueux par rapport aux effets inertiels, d'accord ? Mais si je raffine, ou si tout d'un coup la taille caractéristique qui est pertinente pour l'étude du phénomène n'est plus grand L, et éventuellement nettement plus petite que grand L, il se peut que le Reynolds soit beaucoup plus faible et que l'approximation à laquelle on s'est livré, eh ben, ne soit plus pertinente. C'est-à-dire qu'il faut garder en mémoire, et ça, on reviendra dessus vers la fin du cours, lorsqu'on parlera de la théorie de la couche limite, d'accord ? Si je considère, par exemple, l'interaction d'un profil d'aile avec un écoulement, la taille naturelle qui va s'imposer pour l'étude de cette interaction, ça va être la corde de mon aile, d'accord ? Qui est quelque chose qui se mesure normalement en mètres, plusieurs mètres, plus, éventuellement une dizaine de mètres, d'accord ? Ça va être la corde de mon aile, d'accord ? À cette échelle, je pourrais éventuellement, sous réserve bien sûr de la valeur du Reynolds, négliger les effets visqueux. D'accord? Mais si maintenant je m'intéresse à ce qui se passe au voisinage de mon aile, d'accord? À ce moment-là, peut-être que la corde n'est plus l'échelle d'espace pertinente et qu'il faudra raffiner la description. Bon, je n'en dis pas plus, hein, mais ce sera l'origine de la notion de couche limite sur laquelle nous reviendrons ultérieurement. Voilà. Donc à partir de maintenant, et pour un certain nombre de séances, sauf la toute dernière qui sera consacrée précisément à la théorie de la couche limite, nous allons faire l'hypothèse que le Reynolds est grand, que les effets visqueux sont négligeables à l'échelle d'espace considéré par rapport aux effets inertiels, et donc adopter comme système le système des équations de l'air. Alors, j'y reviens très rapidement parce que ça a été dit, je pense, abondamment lors du dernier TD, sur les conditions à l'interface fluide-solide, juste pour attirer votre attention sur un point particulier qui sera important dans les applications. Quelles sont les conditions que je dois écrire lorsqu'un écoulement interagit avec un obstacle solide? Bon, la condition qui saute aux yeux, bien sûr, c'est la condition d'imperméabilité, c'est-à-dire que le fluide ne pénètre pas dans le solide. Alors, comment est-ce que j'exprime ça mathématiquement? Ben, je suis amené à considérer la vitesse relative de mon solide, qui est W, par rapport à mon écoulement. Donc, voilà ma vitesse relative. Et puis, je calcule le flux de cette vitesse à travers l'élément d'air orienté NDS. Et bien sûr, ce que je dois écrire, si je veux exprimer l'imperméabilité, ben, c'est que ce flux est nul. D'accord? Alors, ce qui est très intéressant, c'est que dans le cas du fluide parfait, c'est même la seule condition cinématique que je vais devoir écrire. Et la raison est assez simple. C'est que, en n'importe quel point de l'interface entre le solide et le fluide, j'attends comme d'habitude trois informations pour chacune des trois directions de l'espace. Donc, par exemple, pour la normale à l'interface et pour les deux directions du plan tangent. Pour ce qui est de la normale, ça y est. La condition d'imperméabilité me donne la composante normale de la vitesse, sous réserve bien sûr que W soit une donnée, ce qui est en général le cas. Par exemple, l'obstacle est fixe, d'accord? Ou alors on s'intéresse au vent relatif, ce qui revient au même, ce qui revient à poser W égale à 0. À ce moment-là, on a par exemple U scalaire N égale à 0. Je connais la composante, on me donne la composante normale de la vitesse, d'accord? Et pour ce qui est des deux autres directions de l'espace, c'est-à-dire de deux directions du plan tangent, eh bien, j'ai déjà des informations, et elles ne sont pas de nature cinématique. Je travaille avec le modèle de fluide parfait, et si je travaille avec le modèle de fluide parfait, ça veut dire que la force surfacique est une pression, donc les composantes de la force surfacique dans le plan tangent sont nulles, elles sont donc données, et elles valent zéro, de sorte que je n'ai bien qu'une unique condition cinématique à écrire au niveau d'une interface entre un fluide parfait et un obstacle, et cette condition porte sur la composante normale de la vitesse. Alors il y a un exemple tout particulièrement important, c'est le cas où W égale à 0, ça veut dire que la vitesse est perpendiculaire à la normale, à l'interface entre le solide et le fluide, ou encore que la vitesse est donc collinéaire à la tangente au contour. Je vais me placer, je ne l'ai peut-être pas assez dit, je vais me placer dans le cadre d'un écoulement plan, d'accord? Donc je m'intéresse en fait à la section droite de mon solide, ok? Et ce que je suis en train de raconter, c'est que la condition d'imperméabilité m'indique que la vitesse est collinaire à la tangente au contour de mon solide. Mais le contour de mon solide, c'est un arc, qui possède donc la propriété suivante, en tout point de ce contour, en tout point de cet arc, la vitesse est collinaire à la tangente. Ah ben ça, on sait ce que ça veut dire. Ça veut dire que le contour de mon obstacle est en fait une ligne de courant. Et ça, c'est extrêmement important, il faut le mémoriser, d'accord? Ce que je viens de dire, c'est que dans le cas d'un fluide parfait, eh bien, la frontière de mon obstacle est une ligne de courant. Je peux même dire de façon réciproque que toute ligne de courant est un contour pour un solide virtuel qui serait compatible avec l'écoulement considéré. D'accord? Hein, on peut prendre le problème exactement comme on a envie. D'accord? Donc, lorsqu'on se posera la question de savoir est-ce que tel écoulement est compatible avec telle géométrie d'obstacle, eh bien, la question reviendra à évaluer si le contour de l'obstacle et bien une ligne de courant pour l'écoulement considéré. Et ça indique que ce serait très agréable d'avoir un outil mathématique simple pour construire les lignes de courant. On sait le faire, bien sûr. Si on a le champ et un des vitesses, on connaît le problème différentiel qu'il convient d'écrire, etc. On va voir, dans la suite de cet amphi, justement, qu'on a un outil mathématique qui nous permet de nous affranchir de la résolution d'un problème différentiel. Voilà. Très rapidement, pour le fluide visqueux, bien sûr, les choses sont différentes. Pour le fluide visqueux, je n'ai aucune information sur... je n'ai aucune donnée sur la valeur de la force surfacique, de la composante tangentielle de la force surfacique, qui était nulle dans le cas du fluide parfait. Ici, là, je ne connais pas sa valeur, ce n'est pas une donnée. Je peux la calculer, bien sûr, si on me donne le champ de vitesse, mais ce n'est pas une donnée. Et à ce moment-là, je me tourne vers l'expérience, et l'expérience m'indique que ce qui convient de faire, c'est de compléter l'information concernant la composante normale de la vitesse par deux informations concernant les composantes tangentielles de la vitesse qui doivent être égales aux composantes correspondantes du solide. C'est-à-dire qu'en fait, dans le cas du fluide visqueux, ça n'est pas seulement les composantes normales qui sont égales, mais c'est bien le vecteur complet sur les vecteurs complets qu'a lieu l'égalité. Et c'est ce qu'on appelle la condition d'adhérence. Donc en particulier, si je suis en train d'étudier l'écoulement d'un fluide visqueux en interaction avec un obstacle fixe, eh bien, en tout point du contour de l'obstacle, dans le cas du fluide visqueux, la vitesse sera prescrite égale à zéro. D'accord ? Alors bien sûr, c'est un modèle. Et il y a des situations où ce modèle n'est pas parfaitement adapté à la réalité. On parle de conditions de glissement. Bon, on ne va pas rentrer dans ce genre de considérations. Bien sûr, toujours garder à l'esprit que ce que nous présentons mathématiquement, ce sont des outils mathématiques pour la physique, d'accord, et que ces outils mathématiques sont des visions simplifiées de la complexité de la physique. D'accord ? Voilà. Alors, on a parlé la dernière fois déjà d'un théorème de Bernoulli. Et j'avais annoncé qu'on allait voir aujourd'hui une version plus riche, au prix d'hypothèses plus fortes, bien sûr, de ce théorème de Bernoulli. Donc, quel était le cadre d'hypothèses qu'on avait utilisé ? On s'était placé en régime permanent. On avait supposé que les forces à distance dérivaient d'un potentiel. Et on avait supposé que le fluide était incompressible. Avec ces trois hypothèses, on avait construit en fait une intégrale première du mouvement en considérant l'équation locale de la dynamique et en prenant le produit scalaire avec la vitesse, on avait montré que cette affaire-là était intégrable, d'accord ? C'était même une des premières utilisations de notre nouvel outil de dérivation particulière. Et on avait donc démontré que la dérivée particulière d'une certaine quantité qui était quelque chose comme u carré sur 2 plus p sur o plus le potentiel dont dérivaient les forces à distance. Donc la dérivée particulière de cet objet était nulle. Et on avait donc conclu que c'était un invariant par trajectoire. D'accord ? Donc cette quantité, je la réécris ici. Donc, U carré sur 2 plus P sur Rho plus Z, voilà. On avait montré que la dérivée particulière de cette quantité était nulle. Ça ne voulait pas dire que cette quantité était uniforme dans l'espace. Ça voulait simplement dire que lorsqu'on suivait une particule dans son mouvement, la quantité en question ne changeait pas de valeur. Autrement dit, c'était un invariant par trajectoire. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va reconduire les hypothèses qu'on avait déjà formulées, donc fluide incompressible, régime permanent, et action à distance dérivant d'un potentiel, mais on va rajouter une nouvelle hypothèse. Cette nouvelle hypothèse, c'est en fait que l'écoulement est un écoulement irrotationnel. D'accord ? Et on va voir que cette affaire-là va grandement simplifier le cadre d'étude. Alors, voici l'accélération, puisque je suis en régime permanent, d'accord ? En toute généralité, l'accélération n'est pas un champ de gradient. Hein, on le voit ici très bien, puisque, en fait, cette identité que vous pourrez vous entraîner à vérifier, hein, elle ne présente pas de difficultés particulières pour vérifier ça, d'accord ? Bah, me dit que le terme de transport dans mon accélération comporte un gradient, mais également une contribution qui est due au rotationnel de la vitesse. Alors, précisément, si je suppose que le rotationnel de la vitesse est nul, donc si j'ai un écoulement qu'on va appeler un écoulement irrotationnel, d'accord, eh bien, il se trouve que le terme inertiel devient un champ de gradient. L'accélération devient un champ de gradient. Mais alors, bah, ici, par construction, la pression intervient par son gradient. Les forces à distance sont le gradient d'un certain potentiel. Et le membre de droite, puisque j'ai fait partir la dérivée partielle de U par rapport au temps, le membre de droite, et que, bien sûr, rho est une constante, le membre de droite est lui aussi un gradient. Donc, en fait, je vois que je peux mettre cette affaire-là sous la forme gradient de quelque chose égal à zéro, et donc ce quelque chose est uniforme, non pas sur une trajectoire, mais uniforme dans tout l'espace. D'accord ? Et donc, c'est cette version beaucoup plus puissante du théorème de Bernoulli, au prix bien sûr d'une hypothèse supplémentaire, qui est le caractère irrotationnel de la vitesse, qu'on va abondamment utiliser dans la suite. Alors voilà, donc j'écris un petit peu ce que je viens de raconter, je fais dégager le terme d'éron U sur d'éron T, mon accélération est un champ de gradient, j'introduis cette information dans l'équation locale de la dynamique, et je fais apparaître que le gradient de la quantité que nous avions déjà rencontré mercredi dernier, est en fait nul. Ce qui veut dire que cette quantité est bien une constante dans tout l'espace. Alors, bien sûr, on peut l'utiliser comme on utilise le théorème de Bernoulli, j'allais dire mineur, hein. Bah, c'est-à-dire que on va utiliser le fait que dans certaines régions de l'espace, on connaît certaines quantités, par exemple la vitesse, et que dans d'autres, on connaît la pression. Bon, et donc, on va pouvoir tirer des conclusions vertueuses de ce genre de choses. Ce sont des exemples que ceux qui ont fait de la mécanique des fluides en prépa ont abondamment rencontré, je pense, dans les applications. C'est pas tellement ça qui va nous intéresser aujourd'hui. Ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est quelque chose de beaucoup plus fondamental, en fait. C'est que, si je regarde cette équation, elle me dit que dès lors que je connais la vitesse, je connais automatiquement les efforts intérieurs. D'abord parce que les efforts intérieurs se réduisent au terme de pression, moins P delta, d'accord ? Et que cette pression est immédiatement donnée, immédiatement connue, dès lors que je connais la vitesse, et je n'ai même pas besoin de la connaître vectoriellement, j'ai besoin de connaître son carré scalaire. Et ça, c'est extrêmement puissant. Ce qui veut dire qu'en fait, un problème de mécanique des fluides, si je le réduis au cadre des écoulements plans irrotationnels de fluides incompressibles, se réduit en fait à un problème de cinématique. Je peux ne m'intéresser qu'à la vitesse. Et dès que j'ai la vitesse, j'ai les efforts intérieurs, j'ai la pression. Et donc, en fait, ce qui va se passer, je le dis pour que vous ne soyez pas surpris, nous n'allons pas faire comme en mécanique des solides, où on était obligé d'avancer toujours main dans la main, contrainte, déformation. On avait même défini la solution d'un problème comme un couple entre un champ d'effort intérieur et une transformation géométrique, un champ de déplacement. Et on était toujours obligé d'emmener les deux en même temps. Bon, même si on avait utiliser quelques idées astucieuses en calcul variationnel, d'accord ? Par nature, il fallait faire cheminer ces gens-là ensemble. Dans le cas de qui nous intéresse ici, donc de l'étude des écoulements irrotationnels de fluides parfaits incompressibles, d'accord ? Eh bien, nous allons pouvoir nous contenter d'une étude cinématique, d'accord ? Et quand nous aurons besoin de parler d'effort pour calculer une force exercé par l'écoulement sur l'obstacle, ou bien un moment exercé par l'écoulement sur l'obstacle, eh bien, on utilisera, on reviendra à Bernoulli, et ça nous donnera des formules très simples, très compactes, qu'on verra vers la fin de l'amphi, qu'on appelle les formules de Blasius. Voilà. Donc, ce point étant précisé, on peut à présent s'engager dans l'étude de la cinématique, d'accord ? Je rappelle le cas d'hypothèse, régime permanent, fluide incompressible, écoulement irrotationnel. D'accord ? Alors c'est de cette idée d'écoulement irrotationnel dont on va partir. On va commencer par exploiter le caractère irrotationnel de notre écoulement. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ça veut dire que déjà le portrait robot d'une cinématique pertinente se dessine. Eh oui, le rotationnel doit être nul, mais je connais les champs dans le plan dont le rotationnel est égal à zéro. Ce sont les champs de gradient. Donc ce que je suis en mesure d'affirmer, simplement à partir de l'hypothèse que l'écoulement est irrotationnel, c'est qu'il existe un champ scalaire défini sur le plan dont le champ de vitesse soit en fait le gradient. D'accord ? Là, j'ai simplement fait des mathématiques. Les champs irrotationnels sont les champs irrotationnels du plan sont les champs de gradient. D'accord ? Voilà. Donc toute l'étude de la cinématique va se réduire à celle du potentiel phi, c'est un potentiel puisque j'obtiens la vitesse par dérivation, d'accord, du potentiel phi, et c'est le premier potentiel que nous rencontrons ce matin. Nous allons en rencontrer trois, d'accord, on verra qu'ils sont d'ailleurs tout à fait liés entre eux. Le premier que nous rencontrons nous donne accès à la vitesse par le calcul du gradient de ce champ. Voilà. Alors, j'ai dit que c'était un écoulement irrotationnel de fluide incompressible. Il faut donc exprimer le caractère incompressible de ce fluide. Et vous le savez, on va prendre la forme dégénérée de l'équation de continuité que nous avons rencontrée la dernière fois. Vous vous souvenez, dérivée de rho par rapport à t, plus div de rho u égale à 0. Ici, évidemment, rho est une constante, donc ça se réduit à divergence de u égale à 0. J'ai donc un champ de gradient qui est à divergence nulle. Ah, ça veut dire que phi n'est pas n'importe comment. Phi est forcément une fonction harmonique du plan. Et ça, c'est extrêmement intéressant parce que je les connais parfaitement, les fonctions harmoniques du plan. D'accord ? Et ça, c'est donc quelque chose qui va nous permettre d'avancer beaucoup. Alors, il y a une grandeur qui va beaucoup nous préoccuper dans la suite du cours, c'est la circulation. On va voir que si les avions volent, c'est parce que la circulation de la vitesse autour de l'aile n'est pas égale à zéro, et même qu'elle a un signe qui est tout à fait important et que vous apprendrez à déterminer. D'accord ? Donc cette grandeur qui, pour l'instant, aujourd'hui, va certainement être encore un petit peu mystérieuse, va jouer un rôle déterminant dans l'étude des interactions entre les écoulements et les obstacles profilés. Donc on va en parler dès maintenant pour voir justement que notre ami, le potentiel phi, nous renseigne sur cette quantité. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une circulation ? Vous avez appris déjà à faire circuler les choses. Vous avez tous, par exemple, fait circuler des champs magnétiques, d'accord, pour calculer, pour exprimer des théorèmes d'Ampère, par exemple, des choses comme ça, d'accord. Donc, vous savez ce que c'est que la circulation d'un champ de vecteur sur un arc, d'accord. Donc, je me donne un arc de l'espace, voilà, un arc de l'espace ici, qui va de M1 à M2, et puis j'ai orienté cet arc. J'ai ici, par exemple, le vecteur unitaire tangent T, d'accord. Et si je veux calculer la circulation de la vitesse, je suis tout simplement amené à calculer l'intégrale de UdM, d'accord. Le dm, l'élément de longueur vectorielle sur mon arc, c'est bien sûr le TdL. T est ici un vecteur unitaire et dl, c'est la norme de dm, d'accord. Alors, pourquoi phi est-il particulièrement efficace pour calculer cet objet ? Alors, vous avez un peu l'impression qu'il tombe du ciel, sans doute. Tout d'un coup, je me vais parler de circulation. Oui, je l'ai dit, on comprendra pourquoi. On va montrer que si les avions volent, c'est à cause de la circulation. Et donc, que la connaissance de cette quantité pour un écoulement est quelque chose de très souhaitable. D'accord ? Eh bien, le résultat est très simple. La circulation sur un arc ne va pas nécessiter le calcul d'une intégrale, parce que puisque U c'est le gradient de phi, U scalaire TdL c'est un gradient de phi scalaire dm, donc c'est un d de phi. Donc je suis tout simplement en train d'intégrer d de phi entre les extrémités m1 et m2, et donc je suis amené à prendre la variation du potentiel phi entre les extrémités de mon arc. D'accord ? Alors, ce qui est très intéressant, Bah, c'est que la première conclusion qu'on a envie de faire, c'est de dire, bah, d'abord c'est très facile, si j'ai caractérisé mon écoulement par un potentiel phi, pour ce qui est de la circulation, dont on vient de dire qu'elle avait sans doute une grande importance dans la pratique, d'accord, bah, il suffit de calculer la variation de phi entre les extrêmes aidés, aucune intégrale à déterminer, ce qui est évidemment très agréable. D'accord. Et puis il y a une conclusion qu'on a envie de formuler, qui est que en plus, cette circulation ne dépend pas de l'arc, en fait, elle ne dépend que de ses extrémités. Bah oui, c'est marqué là, hein, phi de M2 moins phi de M1. Alors, il faut quand même faire un petit peu attention au fait que les fonctions phi, les fonctions harmoniques du plan, ont parfois des propriétés un petit peu étonnantes auxquelles on n'est pas habitué. D'accord. Et notamment, une de ces propriétés, c'est le fait que certaines d'entre elles sont dites multivaluées. C'est-à-dire qu'en un point donné de l'espace, elles peuvent prendre plusieurs déterminations. Alors, ce que je dis là paraît probablement sibyllin, mais ça va s'éclairer dans une toute petite minute. Donc, ce que je suis en train de raconter, c'est que effectivement, si phi de M, c'est-à-dire la valeur que prend le potentiel phi au point M, peut être déterminée de manière unique sans ambiguïté, alors effectivement, dans ce cas-là, la circulation dans le champ de vitesse U qui dérive du potentiel phi ne dépend pas de l'arc, mais ne dépend bien que de ses extrémités. D'accord ? Ok. Alors, on va prendre un exemple de cette situation et juste après, on va exhiber un contre-exemple. Je vais prendre mon premier potentiel phi. D'accord ? J'aurais très bien pu prendre, par exemple, un potentiel phi de la forme... phi égale U fois X. D'accord ? Alors, évidemment, si je prends le gradient, je vais trouver U que multiplie le vecteur EX, et donc j'aurai un écoulement uniforme d'intensité... uniforme partout égal à U et collinaire à la direction X, bien sûr. Voilà, un exemple extrêmement simple. On va prendre maintenant un exemple un petit peu plus amusant, d'accord ? Log de R se trouve être une fonction harmonique très importante du plan. Laplacien de log de R égale à 0. Je vous invite à le vérifier, d'accord ? S'il n'y a aucune difficulté pour faire cela, surtout si vous passez tout simplement tranquillement en cartésienne, vous vérifierez sans aucune peine que phi égale log de R est bien une fonction harmonique du plan. Attention, vous remarquerez que phi a une singularité en R égale à 0 et on sera amené à en reparler. Quoi qu'il en soit, à l'exception bien sûr de cette singularité, phi de M est bien déterminé de manière unique. Hein, je prends le système des coordonnées polaires. En un point donné, la valeur de R est déterminée en ce point d'une manière qui est absolument sans ambiguïté. Et donc, je peux conclure que dans l'écoulement qui est associé à ce potentiel, la circulation sur un arc fermé sera bien égale à zéro. Il y a aucune espèce de doute là-dessus. Alors, on va faire un petit peu plus connaissance avec ce potentiel. Pour ça, on va l'exprimer en le différenciant. Si je prends la différentielle de phi, je prends la différentielle de log de R. La différentielle de log de R, c'est dr sur R. Et dr, bien sûr, c'est er contracté ou scalaire dm. Donc, aucune difficulté pour calculer le gradient de phi. Vous n'avez pas besoin de formulaire pour ça. Et vous trouvez une vitesse qui est donc inversement proportionnelle à petit r, d'accord, et qui est orientée selon le vecteur unitaire radial. D'accord. Donc voilà le genre de dessin que ça me donne. J'ai ici dessiné la situation M strictement positive, c'est-à-dire un écoulement divergent à partir de l'origine de l'espace dans lequel, ça se voit, hein, puisque la vitesse est toujours collinaire à ER, dans lequel les lignes de courant sont les demi-droites qui partent de l'origine. D'accord ? Toute demi-droite qui part de l'origine est une ligne de courant. Si M est positif, ce sera un écoulement divergent, on dira qu'on a affaire à une source. Si M est négatif, on aura affaire à un puits. Alors, un point qui est intéressant, c'est par exemple de calculer le flux d'un tel écoulement sur un cercle qui est centré à l'origine et qui a pour rayon petit a. Ça présente aucune espèce de difficulté. Je veux calculer le U, voici typiquement par exemple mon cercle, d'accord, de rayon grand A, et je veux calculer le flux à travers ce cercle. Bien sûr, la normale unitaire extérieure, ça va être petit n égale ER, et mon DL, ça va être un grand A dθ. D'accord? Donc, le ER scalaire ER va donner 1, et je vais bien me retrouver avec un m sur 2 pi petit r, avec petit r égal à grand A, donc un m sur 2 pi a, multiplié par mon dl, et mon dl, ça va être un a dθ. Je vois que grand A s'en va, et que le résultat, c'est tout simplement petit m, c'est-à-dire que le flux qui traverse un cercle de rayon grand A quelconque est indépendant, en fait, de ce rayon, ok, et est égal à petit m. On va l'appeler le débit de la source, bien du puits, selon le signe de petit m. D'accord? Alors, bien sûr, le caractère indépendant de grand A, ben, renvoie tout simplement au fait que si je considère deux cercles concentriques, tous les deux centrés à l'origine, ben, ce qui va rentrer par le cercle de petit rayon va sortir par le cercle de grand rayon si j'ai affaire à une source, d'accord? À l'identique, à cause de la conservation de la masse. D'accord? Donc, le caractère indépendant de grand A du flux qu'on vient de calculer, c'est une conséquence, bien sûr, de divergence de U égale à zéro, c'est-à-dire de la conservation de la masse. Voilà. Alors, contre-exemple maintenant. Ben, une autre fonction harmonique du plan, et vous pourrez là encore vous entraîner à vérifier que c'est bien une fonction harmonique, d'accord? Eh bien, c'est tout simplement θ, c'est-à-dire la détermination angulaire dans le système des coordonnées polaires. C'est un exercice qui n'est pas difficile à faire et qui est extrêmement instructif. Donc, j'avais m sur 2 pi log de r, ça m'a donné des sources ou des puits selon le signe de m. Je prétends que si je prends m sur 2 pi, où petit m est un scalaire dont on va comprendre la signification dans un instant, multiplié par θ, donc si je prends quelque chose, si phi est proportionnel à θ, d'accord, eh bien je prétends que cette affaire-là correspond à un mouvement tourbillonnaire. On va le voir dans une toute petite seconde. Mais ce en quoi ceci constitue un contre-exemple par rapport à la situation de la source, c'est que, à l'évidence, si je me place sur le cercle unité, par exemple au point x égale 1, y égale à 0, et que je fais le tour du cercle unité, ben, θ est une fonction évidemment monotone croissante, je pars de 0, et puis une fois que j'ai fait un tour complet, θ est égal à 2π. D'accord? C'est-à-dire qu'au même point, j'aurai évidemment deux déterminations. Si je fais un tour de plus, j'en aurai trois, et ainsi de suite. J'aurai une infinité de déterminations possibles de la valeur de θ, en fonction du nombre de tours que j'aurais considéré. Donc, quand je vais calculer une circulation, évidemment, je vais voir apparaître le fait que ma fonction phi n'est pas déterminée sans ambiguïté, elle n'est déterminée qu'à un multiple de 2 pi près. D'accord? Donc, c'est un exemple très simple de fonction harmonique, multivaluée, et évidemment, dans ce cas-là, je peux anticiper que la circulation sur un arc fermée n'est pas nécessairement nulle. Elle le sera si cet arc n'entoure pas l'origine, mais dans le cas contraire, elle ne le sera pas. Alors, on va le vérifier, d'accord? Déjà, faisons connaissance avec notre écoulement en prenant le gradient. Ben, qu'est-ce que c'est que le gradient de θ? C'est assez facile à faire. Hein, on multiplie par r, on divise par r pour faire apparaître r dθ, parce que r dθ, c'est eθ scalaire dm. Et donc, je vois sans aucune peine que gradient de phi, c'est m sur 2 pi r eθ. Hein, vous voyez tous les souvenirs, tout ce que vous avez appris en calcul différentiel sur les tenseurs, ça n'était pas du tout réservé aux solides. Hein. Vous pouvez l'utiliser maintenant abondamment. D'accord? Donc, j'avais une vitesse qui était collinaire à la radiale dans le cas de la source, et bien j'ai maintenant une vitesse qui est orthoradiale, d'accord, et qui va prendre qui a une intensité constante sur un cercle centré à l'origine. Voilà le genre de choses que cela me donne, d'accord. Et les lignes de courant, à l'évidence, ça va être tous les cercles centrés à l'origine, ok, avec une vitesse donc dont l'intensité décroît à mesure que l'on s'éloigne de l'origine, qui va donc être le centre de ce mouvement tourbillonnaire. J'ai dessiné ici la situation M strictement positive. Alors, si je m'amuse, pour vérifier ce que j'ai annoncé, à calculer la circulation de ma vitesse, ça va être sur une telle ligne de courant, sur un arc fermé, donc, de cercle. Je vais avoir M sur 2 pi grand A Eθ scalaire, scalaire dm, c'est-à-dire un eθ dl, c'est-à-dire un eθ grand A dθ, voilà, il est chose écrite, m sur 2 pi grand A eθ scalaire eθ que multiplie A dθ, grand A disparaît, je termine mon intégrale et je trouve que cette circulation est indépendante. Elle est non nulle, d'abord, c'est le premier point, elle est non nulle, elle vaut petit m, ce qui confère le sens physique de petit m, c'est la circulation sur un arc de cercle centré, sur un cercle fermé centré à l'origine, d'accord, et c'est indépendant de petit a, d'accord. Voilà. Donc on voit que on a deux grandes classes d'écoulements. Les écoulements qu'on va appeler, je pense que c'est ici que je le dis, les écoulements qu'on va appeler les écoulements acycliques, ceux pour lesquels, quel que soit un arc fermé, la circulation sur cet arc est égale à zéro. Ça correspondra à la situation des fonctions phi qui sont déterminées sans ambiguïté. D'accord? Et au contraire, on aura des écoulements dits cycliques pour lesquels il existe des arcs fermé sur laquelle la circulation n'est pas nulle. Alors j'ai parlé ici dans le cas du tourbillon centré à l'origine des arcs de cercle, mais vous pourrez vous entraîner à vérifier que pour n'importe quel arc non nécessairement circulaire mais fermé entourant l'origine, bah la circulation vaut toujours petit m. D'accord? C'est une application très simple du théorème de la circulation. Vous savez que la circulation sur un arc est égale au flux du rotationnel sur la surface délimitée par cet arc. Eh bien, il vous suffit de considérer, par exemple, je considère l'origine de l'espace ici, je considère un arc fermé, d'accord, que je parcours dans ce sens-là, et puis je vais prendre un arc de cercle fermé entourant l'origine, que je parcours dans le sens inverse, et j'applique le théorème sur la circulation, d'accord, en disant que la circulation de mon champ de vitesse sur le contour de ce domaine, qui comporte deux portions, parcourues en sens inverse, d'accord, est égale au flux du rotationnel, mais le rotationnel est nul, d'accord, donc son flux est également... D'accord, de sorte que la circulation sur cet arc, plus la circulation sur cet arc, ben ça fait zéro. C'est-à-dire qu'en fait, que la circulation sur cet arc est égale à la circulation sur l'arc de cercle parcouru dans le sens trigonométrique, dont on a montré qu'elle est égale à petit m. D'accord? Voilà donc qui généralise de manière très significative le résultat obtenu pour les cercles. Alors, un petit bilan partiel. On en est où? On a un premier outil pour construire des cinématiques, c'est le potentiel phi. Comment a-t-on fabriqué cet outil? On est parti de la propriété, l'écoulement est irrotationnel. Et au passage, on a évidemment en tête que le caractère incompressible du fluide se traduit par le fait que ce potentiel phi est en fait une fonction harmonique. Alors, ce qui est extrêmement intéressant, c'est qu'on va pouvoir superposer de tels écoulements, d'accord? Si je connais pour un obstacle donné, je connais deux potentiels phi1 et phi2 qui sont compatibles avec cet obstacle, eh bien, la somme de ces deux potentiels est toujours un potentiel compatible avec cet obstacle, d'accord? Ça, c'est lié au fait que les équations que j'ai à écrire concernant la vitesse sont rotationnelles de U et nulles. Divergence de U est nulle, et ces deux équations sont des équations linéaires. Attention, en revanche, les vitesses s'ajoutent, les pressions ne s'ajoutent pas, puisqu'évidemment, la vitesse intervient au carré dans la formule de Bernoulli. Voilà. Je passe maintenant, simplement un petit commentaire pour ceux d'entre vous qui pourraient avoir des inquiétudes mathématiques. Les deux champs que j'ai présentés sont des champs singuliers. On l'a vu, hein, dans les deux situations, que ce soit pour la source ou pour le tourbillon, la vitesse variait comme l'inverse du rayon. Donc évidemment, elle prenait une valeur, elle avait une branche infinie en R égale à zéro. Ça va avoir des conséquences, d'accord? Ça va avoir des conséquences auxquelles il faut être attentif. Alors, quel est le paradoxe que je veux évoquer? Ben, j'ai pris, il y a une petite seconde, et vous m'avez, je pense, suivi dans mon calcul, le champ de vitesse correspondant à une source. On a dit, ben voilà, c'est un bazar qui est porté par la radiale, qui est en 1 sur R. On a calculé le flux à travers un, un cercle centré à l'origine, on a dit ben, ça marche très très bien, ça vaut petit m. Et puis tout d'un coup, on se dit non, mais attention, c'est quoi cette affaire? La divergence de mon champ de vitesse est nulle, c'est l'équation de continuité. Mais si la divergence est nulle, ben, quand je vais intégrer la divergence, je vais forcément trouver zéro. Or, l'intégrale de la divergence, c'est le flux de la vitesse à travers la surface délimitée par la surface sur laquelle j'ai intégré la divergence. Donc comment est-ce que je peux avoir un flux non nul alors que la divergence est égale à zéro? Est-ce que ça prend en compte, est-ce que ça prend en défaut ou non le théorème de la divergence? La réponse est que oui, ça prendrait en défaut si mon champ de vitesse était régulier, mais il ne l'est pas, précisément parce que mon champ de vitesse a une singularité en R égale à zéro. Donc je ne peux pas appliquer, au moins dans sa forme très simple, le théorème de la divergence que j'ai énoncé il y a une petite seconde en disant, ben voilà, j'ai un volume délimité par une surface fermée, j'intègre la divergence sur ce volume, je trouve zéro, et ça doit être égal au flux du champ à travers la frontière de ce domaine. Ça marche à condition que le champ U est effectivement régulier sur tout le domaine d'intégration, ce qui n'est pas le cas si ce domaine contient l'origine. D'accord ? Si ce domaine ne contient pas l'origine, bien sûr, l'intégrale de la divergence sera nulle et le flux à travers les éléments de la frontière sera égal à zéro. Mais si le domaine d'intégration contient l'origine, vous ne pouvez plus l'appliquer sous la forme habituelle. Mais en fait, cette affaire-là, vous le savez déjà. Je fais juste une petite analogie avec l'électromagnétisme. D'accord ? Eh bien, vous allez constater que la vitesse d'une source a exactement les mêmes propriétés mathématiques, divergence nulle, que le champ électrique, qui lui aussi est à divergence nulle, d'accord. Quel champ électrique? Ben, j'ai pris ici, pour justement obtenir cette analogie, le champ électrique qui est un champ dans le plan, généré par une distribution linéique uniforme de charge selon la direction perpendiculaire à ce plan. Donc, je travaille dans le plan OXY, je considère une distribution linéique selon la direction Z, une distribution linéique uniforme de charge, et je regarde le champ généré par ces charges. Ce sont des choses que vous avez appris à calculer l'année dernière, ce sont des applications classiques de la formule de Maxwell-Gauss. Okay. Et on constate que le champ électrique, dans ce cas, a exactement la structure mathématique du champ de vitesse d'une source. Okay ? Et donc, le pseudo-paradoxe mathématique est exactement de même nature. Et vous savez très bien que quand vous calculez le flux du champ électrique à travers un cylindre qui a comme axe justement l'axe des charges, d'accord ? Et ben, ce que vous trouvez, c'est la charge contenue dans ce cylindre divisée par epsilon 0. Et non pas zéro. D'accord ? Voilà. Alors, on pourrait dire la même chose, le même petit souci apparaît, bien sûr, même inquiétude naturelle de dire, je comprends pas, j'ai un champ irrotationnel. Et moi, j'ai appris que la circulation sur le contour de mon champ, d'accord, doit être égal au flux de mon champ à travers la surface délimitée, le flux du rotationnel de mon champ à travers la surface délimitée par ce contour. Or, le rotationnel est nul, donc je devais trouver que la circulation est nulle. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est exactement, évidemment, pour les mêmes raisons. Vous ne pouvez appliquer le théorème que je viens d'énoncer que sur un domaine dans lequel le champ de vitesse est régulier. Si le champ de vitesse a une singularité, le théorème ne s'applique plus, au moins il ne s'applique plus sous la forme habituelle. D'accord ? Donc il n'y a aucune contradiction à trouver que la circulation de la vitesse sur un arc fermé est non nulle, alors que le rotationnel est nul. L'explication réside dans le fait qu'il y a une singularité en R égale à zéro. Donc si votre arc entoure l'origine, votre théorème est pris en défaut. Okay. En revanche, si votre arc n'entoure pas l'origine, eh bien la circulation sera à coup sûr nulle parce que le théorème dans ce cas-là est valable et que le rotationnel de la vitesse sera bien nul en tout point du domaine délimité par le contour sur lequel vous calculez la circulation. Voilà, petite analogie avec l'électromagnétisme également, vous convaincrez que le champ de vitesse dans un tourbillon a exactement les mêmes propriétés mathématiques et la même structure que le champ magnétique qui est induit par un circuit filiforme, encore une fois, selon le Z. D'accord ? Je prends un circuit filiforme parcouru par un courant uniforme, tensité petit i, d'accord ? Vous savez très bien calculer le champ magnétique associé à généré par ce circuit, d'accord, il est ici, il a exactement la structure mathématique du champ de vitesse de tourbillon. En particulier, son rotationnel est égal à zéro. Ok, alors, première piste que nous venons d'explorer, je pars du fait que mon écoulement est irrotationnel. Ça me donne que mon champ de vitesse est à coup sûr un champ de gradient. Deuxième piste maintenant. Je vais maintenant prendre comme point de départ le fait que l'écoulement est un écoulement de fluide incompressible, donc la divergence doit être égale à zéro. Est-ce que je connais dans le plan la forme générale des solutions de l'équation divergence de U égale à zéro? La réponse est oui. La réponse, c'est que ce sont des champs de rotationnel. D'accord? Tout à l'heure, on avait dit la forme générale des solutions de rot de U égale à zéro, c'est U égale gradient de phi. D'accord? Eh bien, la forme générale des solutions de divergence de U égale à zéro, c'est U égale rotationnel de psi au z. Psi étant évidemment un champ du plan, un champ scalaire du plan, c'est-à-dire un machin qui s'écrit psi de x, y. D'accord? Alors on peut terminer le calcul, hein. On prend le vecteur des dérivées partielles, dérivées par rapport à x, dérivées par rapport à y. Évidemment, il n'y a rien selon z. On prend le produit vectoriel avec le vecteur psi de z et on va trouver sur y moins dérivé de psi par rapport à x, et puis sur x, on va trouver dérivé de psi par rapport à y. Donc, si je pars de la propriété physique que l'écoulement est incompressible, je suis capable de trouver la forme générale des solutions de cette équation. Elles peuvent être exprimées encore une fois par un potentiel, et ce potentiel, on l'appelle la fonction de courant. D'accord? Et voici donc une autre façon de calculer les composantes de la vitesse. Tout à l'heure, c'était les composantes du gradient, dérivée de phi par rapport à x, dérivée de phi par rapport à y. Là, c'est dérivée de psi par rapport à y et moins dérivée de psi par rapport à x. Donc, nouveau potentiel, la fonction de courant. Alors, à quoi est-ce qu'elle peut bien servir? La fonction phi nous a servi à calculer des circulations et nous a permis de discuter autour de la question de la circulation. Que dire de psi? Bon, eh bien, je vais tout de suite l'annoncer parce qu'il faut que j'avance un petit peu. En fait, psi va me servir notamment à calculer le débit de l'écoulement à travers un arc donné à l'avance. Alors, comment est-ce que je peux prouver ce genre de choses? Je vais me donner un arc M1, M2, orienté de M1 vers M2, c'est-à-dire que j'ai un vecteur unitaire tangent, là, qui pointe dans la direction de 1 vers 2, ok? Et je vais définir la normale à mon arc par le produit vectoriel T vectoriel Z. L'espace est orienté puisque je manipule des rotationnels. D'accord? Donc voici l'orientation X, Y, Z positive de l'espace. D'accord? Donc ça a bien un sens. Et je définis par ce procédé, sans ambiguïté, une orientation. D'accord? À travers qui va me permettre donc de calculer un débit avec son signe. Je dirais que le débit est positif si le débit a lieu dans le sens de petit n, du vecteur n. N étant calculé comme t vectoriel z. D'accord? Alors, est-ce que je peux calculer le débit qui traverse l'arc M1, M2 dans le sens donné par petit n? Bon, on peut calculer assez facilement l'élément ndl, le calcul de ndl ne pose aucun problème puisque ça va me donner tdl vectoriel z, c'est-à-dire dx dy vectoriel z, et quand on fait le calcul du produit vectoriel, on va trouver en fait dy moins dx. Ce que j'ai écrit ici, dy moins dx, c'est le vecteur ndl que vous obtenez en faisant tdl, c'est-à-dire dx dy vectoriel z. Voilà. Et quand vous terminez le produit scalaire, vous allez trouver ux dy, mais ux c'est psi virgule y, c'est-à-dire dérivé de psi par rapport à y dy. Voici le premier terme. Et puis le deuxième, uy, c'est-à-dire moins dérivé de psi par rapport à x, multiplié par moins dx, qui vous donne un plus psi virgule x dx. Donc en fait, ce que vous constatez, c'est que le flux de la vitesse à travers l'élément de longueur dl orienté par n, d'accord ? Hein, je vais faire un petit dessin. J'ai mon arc ici avec m1 et m2, et puis ici j'ai le tronçon de longueur dl que j'ai orienté par le vecteur n, d'accord ? Eh bien, le débit à travers cet élément de longueur dl orienté par n, ça n'est rien d'autre que d psi, la différentielle de mon potentiel psi, hein, c'est gradient de psi dn, donc c'est le d psi, c'est la variation de psi entre les extrémités de cet élément de longueur infinitésimale. D'accord ? Donc si maintenant je veux calculer le débit à travers la totalité de l'arc, il suffit que j'intègre les psi et ça me donne bien sûr la variation de psi entre les extrémités. Et donc je me retrouve à la tête du résultat suivant, c'est que le débit à travers un arc peut être calculé à l'aide de ce nouvel outil, tout simplement en considérant la variation de ce potentiel entre les extrémités de l'arc. D'accord ? Attention néanmoins à la convention sur le signe du débit. D'accord ? Ce débit est compté positivement dans le sens de n défini comme t vectoriel z. D'accord ? Voilà. On peut très rapidement se tromper de signe si on oublie cette convention d'écriture. Voilà. Alors, première, donc on avait vu, phi me permet de calculer une circulation, psi me permet de calculer un débit, très bien. Psi va avoir une deuxième vertu. Vous vous souvenez, tout à l'heure, j'ai dit, ce serait extrêmement souhaitable de disposer d'un outil qui me permet d'accéder aux lignes de courant sans avoir à résoudre un problème différentiel. D'accord ? Eh bien, ce que je vais montrer maintenant, c'est que ce bon outil, c'est justement psi. Que psi va me permettre de construire les lignes de courant sans avoir à résoudre de problèmes différentiels. Comment on fait ça? Juste pareil. Une autre façon d'écrire U scalaire NDL, d'accord, hein. Si vous avez si vous avez quelque chose, vous avez n dl qui est égal à t dl vectoriel ez. Et on a appris à calculer u scalaire n dl. On a montré que c'était égal à d psi. D'accord ? Mais c'est aussi, tout simplement, u vectoriel t dl scalaire EZ. Et tout ça, ça fait des psi. D'accord ? Ben, qu'est-ce que ça veut dire, cette affaire-là ? Si je m'intéresse à une ligne de courant, en tout point d'une ligne de courant, par définition, la vitesse est collinéaire à la tangente à la ligne en question. Donc, les lignes de courant sont exactement les lignes qui possèdent la propriété que d psi est égal à zéro. C'est-à-dire que les lignes de courant ne sont autres que les lignes isovaleurs de psi. Donc je n'ai pas besoin, pour déterminer les lignes de courant, de résoudre un problème différentiel si, bien sûr, je connais le potentiel psi de l'écoulement en question. D'accord ? J'ai simplement à appliquer le fait que les lignes de courant sont exactement les lignes isovaleurs de psi. On reprend la démonstration très rapidement, hein, par un procédé très similaire. Je forme le produit vectoriel ux, uy, c'est-à-dire mon vecteur vitesse par la tangente à mon arc, c'est-à-dire le vecteur TDL, d'accord ? Je calcule mon produit vectoriel en projection selon EZ, hein, c'est-à-dire qu'en fait je suis en train de calculer ce truc-là. D'accord ? Eh bien, maintenant, je me souviens que ux et uy s'expriment en fonction des dérivées partielles de psi, et je retrouve mon dpsi, bien sûr, comme prévu. Et donc, si j'ai affaire à une ligne de courant, eh bien, en fait, ce produit vectoriel est nul, et réciproquement, ce qui veut dire que les lignes de courant sont exactement caractérisées par des propriétés du type psi égale constante. Voilà. Alors, en particulier, je disais tout à l'heure, vous souvenez, que le contour d'un obstacle compatible avec que le contour de l'obstacle compatible avec un écoulement donné était certainement une ligne de courant de cet écoulement. Eh bien, je pourrais tout de suite vérifier si un obstacle est compatible avec un écoulement caractérisé par psi en examinant si oui ou non le contour de cet obstacle est bien une ligne isovaleur de la fonction psi. Voilà une application très importante de la fonction de courant. Voilà. Donc on a un premier potentiel réel phi dont on déduit la vitesse par le gradient. On a un deuxième potentiel réel psi dont on déduit la vitesse par le rotationnel, d'accord ? Maintenant, on va, là je vais zapper un petit peu tout ça, j'ai pas le temps de le raconter. On va passer au potentiel complexe. Au potentiel complexe de notre écoulement. J'ai deux potentiels réels, phi et psi. En fait, phi et psi se connaissent, puisque phi et psi servent tous les deux à calculer le même champ de vitesse. D'accord ? Donc ça, c'est un point extrêmement important. Ok ? Ce ne sont pas deux potentiels qui s'ignorent, puisque tous les deux ont la propriété qu'on calcule le même ux et le même uy à partir des dérivées partielles, respectivement de phi et de psi, selon des règles qui, évidemment, dépendent du choix du potentiel. Eh bien, cela va me permettre de démontrer le fait que la fonction f de z, définie comme phi xy plus i psi xy, est en fait une fonction holomorphe. Le problème, c'est que vous ne savez pas tous ce qu'est une fonction holomorphe. Et donc, on va prendre un tout petit peu de temps pour y parvenir. Alors, toute l'idée de ce troisième potentiel, qui est un potentiel complexe, c'est de regarder le plan XY, d'accord, comme le plan d'Argand-Cauchy, c'est-à-dire qu'on va associer à tout point XY son affixe, c'est-à-dire X plus IY. D'accord ? On avait un premier potentiel phi de XY, un deuxième potentiel psi de XY, ça donc me permettre a priori de définir une fonction petit f de l'affixe z égale x plus y, tout simplement à l'aide de la règle indiquée. Que veut dire le fait que cette fonction est holomorphe? Par définition, ça veut tout simplement dire que cette fonction est c-dérivable. Qu'est-ce que ça veut dire, c-dérivable, me dites-vous? Ça veut dire que c'est comme en première, ça veut dire que le taux d'accroissement a une limite unique, parfaitement déterminée. Je dirais que ma fonction f est holomorphe si f' de z définie de la manière suivante a un sens, limite, quand dz tend vers 0 de f de z plus dz moins f de z sur dz. D'accord ? Donc exactement la même définition que celle que vous avez manipulée quand vous avez découvert la notion de dérivée en première, d'accord ? Sauf que maintenant, l'argument de la fonction f, c'est un nombre complexe. Et c'est là que les choses deviennent un petit peu plus délicates. Prenez par exemple, je ne vais pas le faire, mais vous le vérifierez par vous-même, prenez un exemple très simple. Je vais prendre la fonction f de z, qui est égal à z bar, d'accord, c'est-à-dire, évidemment, x moins y, d'accord, et vous entraînerez à calculer ce taux d'accroissement. Et bien, vous allez trouver que vous ne pouvez pas déterminer la limite de ce taux d'accroissement en toute généralité, que selon la manière dont vous faites tendre dz vers 0, par exemple, en disant tout simplement, je vais tendre sur l'axe des x, ou alors je vais tendre selon sur une parallèle à l'axe des x ou une parallèle à l'axe des y, je ne vais pas trouver la même chose. D'accord ? C'est-à-dire que cette fonction, qui a l'air toute gentille, cette fonction n'est pas holomorphe, elle n'est pas c-dérivable. D'accord ? Or, moi, je prétends que ce nouvel ami qu'on vient de fabriquer avec les deux précédents, phi et psi, est holomorphe, c'est-à-dire c-dérivable. Alors, quelqu'un dit, oui, ok, c'est super, on est content pour lui. Oui, mais l'intérêt, c'est que justement la dérivée est liée, la dérivée de cette fonction va justement me donner le vecteur vitesse. D'accord ? À une subtilité près qu'on va découvrir tout de suite. Alors, on fait le calcul ensemble. D'accord ? Je veux savoir si cette fonction est holomorphe. Je forme son taux d'accroissement. Donc, je calcule f de z plus dz. Donc j'applique le mode d'emploi, hein. Je remplace ici x et y par x plus dx et y plus dy. D'accord? Et je fais un calcul de phi de x plus dx, y plus dy, et même chose pour psi, d'accord? En appliquant un développement de Taylor au premier ordre. D'où voici le terme du premier ordre avec le d de phi. Voici donc le d de phi, et voici le d de psi. D'accord? J'ai tout simplement écrit que f de z plus dz, c'est phi plus ipsi plus d phi plus id psi. D'accord? Et c'est à ce stade que je me souviens que phi et psi servent à calculer le même champ de vitesse. Phi virgule x est égal en fait à psi virgule y. Tous les deux me donnent U2x. Phi virgule y est en fait égal à moins psi virgule x et me donne U y. D'accord? Ça va me permettre, sans difficulté, il suffit de reporter, d'éliminer les dérivations partielles de phi et de psi en fonction de ux et uy, d'accord? Et sans aucune difficulté, vous allez trouver que f de z plus dz, c'est f de z, qui est ici, plus un reste, qui est proportionnel à dz, et donc vous avez gagné. Ça veut dire que lorsque vous allez considérer le taux d'accroissement f de z plus dz, moins f de z sur dz, d'accord, eh bien vous allez trouver ux moins i uy, c'est-à-dire le conjugué de la fixe de la vitesse. Donc la démonstration est sans doute passée un peu vite, mais elle ne présente aucune espèce de difficulté, vous pourrez la reprendre par vous-même. Ce que je suis en train de raconter, c'est qu'avec mes deux potentiels réels phi et psi, qui sont mariés au sens de relations mathématiques que certains d'entre vous connaissent déjà, qu'on appelle les équations de Cauchy-Riemann. On a donc deux fonctions harmoniques mariées par les relations de Cauchy-Riemann qui expriment tout simplement physiquement le fait que ces deux potentiels servent à fabriquer le même champ de vitesse. Alors à ce moment-là, avec ces deux fonctions harmoniques conjuguées au sens des conditions de Cauchy-Riemann, je fabrique une fonction de la variable complexe petit z qui a la propriété que f prime de z est le conjugué de la fixe de la vitesse. On l'appelle la vitesse complexe, mais faites bien attention au fait qu'il y a ici un signe moins et que si vous voulez la fixe de la vitesse, il vous faut prendre f prime bar. Voilà, je suis obligé d'avancer vers le dernier résultat que je vais présenter ce matin, qui est la formule que j'avais annoncée tout à l'heure. Je vous ai dit, toute l'étude de ce matin est une étude cinématique parce que au moment où je m'intéresse au torseur des efforts exercés par un écoulement sur un obstacle, eh bien, je n'aurai qu'à me souvenir de du théorème de Bernoulli, qui me dit que P sur rho plus K sur 2 plus V est une constante. Eh bien, c'est le moment de s'en souvenir. Il y a deux formules de Blasius, puisque dans un torseur, il y a la résultante des forces et celle des moments. D'accord? Je vais vous présenter ici que la formule de Blasius en force, qui me permet donc de calculer la résultante des actions qu'exerce un écoulement sur un obstacle. D'accord? En fait, c'est paradoxalement extrêmement simple. D'abord parce que le modèle physique que j'utilise, c'est le modèle de fluide parfait, et donc la force surfacique, je rappelle que je travaille en plan, donc ce que j'ai dessiné ici en noir, c'est mon obstacle, il est baigné dans un écoulement, d'accord, et je souhaite calculer donc la résultante des forces par unité de longueur perpendiculaire au plan de la figure, bien sûr, qu'exerce mon écoulement sur cet obstacle. Donc je ne vais pas considérer un NDS, mais un NDL, DL étant un élément de longueur sur le contour de mon obstacle, bien sûr, je vais obtenir par ce procédé une force surfacique, d'accord, par unité de longueur dans la direction perpendiculaire au plan du tableau. Ok ? Donc mon NDL, c'est un DY moins DX, on l'a déjà rencontré tout à l'heure quand on s'est intéressé au calcul du débit, c'est-à-dire c'est un TDL vectoriel Z, ok, et je peux remplacer ici NDL par donc le vecteur DY moins DX. Si je travaille dans le plan complexe, je vais tout de suite pouvoir écrire la fixe, faut pas que je me trompe dans le signe, c'est tout, je vais pouvoir écrire l'affixe de ma force. Je vais pouvoir remplacer le vecteur force par un nombre complexe et écrire que fx plus ify est égal à l'intégrale de moins p multiplié par ndl, c'est-à-dire dy moins i dx. D'accord ? Et ça, c'est bien sûr sur le contour de l'obstacle. Et si je prends maintenant le conjugué de cette formule, je vais donc avoir un fx moins ify égale moins p dy plus i dx, et c'est la formule qui va être notre point de départ. D'accord ? Donc le conjugué de la force, de la fixe de la force F, c'est-à-dire le membre de gauche ici, est bien une intégrale à prendre sur le contour de mon obstacle. Bien sûr, en factorisant petit i, va être commode de faire apparaître cette deuxième expression de mon affixe sous la forme de l'intégrale de P dz bar. Alors c'est maintenant que je me souviens de Bernoulli, et je vais démontrer la formule dans le cas où il n'y a pas de force à distance. Dans ce cas-là, ben, il y a, le V est égal à 0, si vous préférez, et dans ce cas-là, U carré sur 2 plus P sur O est une constante que je détermine par les valeurs de la vitesse et de la pression dans la région non perturbée par l'obstacle. D'accord ? Alors, comment est-ce que je m'y prends ? Ben, l'idée est très simple, on va éliminer P en fonction de u carré, et puis ici, on a une constante. Alors, si je m'amuse à prendre ben, l'intégrale de u carré sur 2 plus p sur rho, d'accord, dz bar, exactement comme indiqué ici, pour faire apparaître donc l'intégrale sur mon contour de P dz bar, eh bien, j'intègre ici terme à terme sur le contour de d rond oméga en prenant comme mesure dz bar. Pourquoi le résultat est-il très simple? Eh bien, c'est que dans le membre de droite, j'ai une constante. Donc, en fait, l'intégrale que j'ai écrite ici n'est autre que l'intégrale sur le contour fermé des ronds oméga d'une certaine constante. Alors on peut l'écrire, hein, c'est P infini sur rho plus U infini au carré sur 2, mais comme c'est une constante, je peux la sortir de l'intégrale multipliée par dz bar. Ouais, mais tout ça c'est linéaire, c'est-à-dire que la barre, ben, je peux la mettre ici si j'ai envie. Et le résultat de cette intégrale, ben, il est vite vu, il est évidemment égal à 0, puisque j'intègre dz sur un contour fermé. D'accord ? Donc, en fait, cet objet est égal à 0. Et donc, l'intégrale de moins p dz bar dont j'ai besoin, c'est directement à un coefficient près, l'intégrale du carré scalaire de la vitesse. Et c'est seulement ça qu'il faut retenir. Et c'est toute la puissance de Bernoulli, et c'est ce que j'annonçais tout à l'heure quand je disais, ben, en fait, les choses sont simples. On va faire que de la cinématique, parce que ça va nous donner automatiquement accès aux éléments de réduction du torseur des efforts extérieurs, des efforts d'interaction. Donc, ce que je viens de raconter, c'est que l'intégrale de cette constante sur le contour est égale à 0, donc j'en déduis, sans aucune difficulté, fx moins ify, le conjugué de la fixe de la force, s'obtient en intégrant sur le contour de mon obstacle le produit f' bar. Qu'est-ce que c'est que f' bar? Ben, c'est tout simplement le carré scalaire de la vitesse, puisqu'on a vu que la vitesse complexe, c'est le conjugué c'est le conjugué de f', d'accord? Donc si je veux calculer le carré scalaire, je vais bien faire f', f' bar. D'accord? Et tout ça doit être intégré avec la mesure dz bar. Le résultat que je viens d'écrire n'est pas seulement valable, j'ai sans doute plusieurs fois parlé d'obstacles, est valable pour calculer la résultante des forces de pression sur n'importe quel contour, pourvu qu'il soit fermé, pas nécessairement une ligne de courant. Si maintenant je rajoute que ce contour est en fait une ligne de courant, et ce sera le cas bien sûr si je m'intéresse en fait à un obstacle compatible avec mon écoulement, j'ai une propriété supplémentaire. Cette propriété supplémentaire, c'est la condition d'imperméabilité. Et ça, c'est un petit exercice que je vous laisse, qu'une difficulté à vérifier. La condition d'imperméabilité se traduit en fait par le fait que f'dz est un réel, et donc en fait égal à son conjugué. D'accord ? C'est-à-dire que f'dz égale f'bar dz bar, ça exprime exactement la même chose que ce qui est écrit ici, qui n'est autre que la condition d'imperméabilité. D'accord ? Donc, lorsque vous allez devoir calculer la résultante des forces de pression sur un contour quelconque, vous pouvez utiliser l'identité que nous venons d'établir ensemble, d'accord ? Mais si de surcroît ce contour est un obstacle, c'est-à-dire une ligne de courant, donc que vous avez en plus la propriété d'imperméabilité, eh bien vous allez pouvoir remplacer le f' bar dz bar par f' dz et vous arrivez à ce qu'on appelle la formule de Blasius. D'accord ? La première formule de Blasius, celle qui me permet de calculer la résultante des forces. Il y en a une autre qui se démontre par un procédé de même nature au profit du moment. Alors, comme d'habitude, j'ai pas raconté tout ce que j'avais envie, mais ça va être l'heure de s'interrompre pour que vous puissiez rejoindre vos petites classes respectives. La conclusion très importante de tout ce qu'on a fait ce matin, c'est que dans l'hypothèse des grands Reynolds, on s'oriente vers les équations de l'air. On ne va pas étudier les équations de l'air dans toute leur généralité. On ne va s'intéresser qu'aux écoulements irrotationnels. Et que dans ce cas, nous pouvons accéder au champ des vitesses par trois procédés qui se connaissent, d'accord ? Trois procédés qui sont mariés, en fait, soit par le potentiel phi, en prenant le gradient, soit par le potentiel psi, en prenant le rotationnel, soit par le complexe phi plus ipsi, en prenant tout simplement sa dérivée, puisqu'il se trouve que c'est une fonction holomorphe. Les trois procédés nous conduirons au même champ de vitesse, et à partir de ce champ de vitesse, nous pourrons calculer des efforts grâce aux formules de Blasius. Voilà, merci pour votre attention.